bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
C'est gênant. C'est gênant, oui.
C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Léa Cadeau-Boudadine.
Bonjour à tous.
Jérémy Crévier.
Bonjour.
Daniel Morin.
Coucou.
Albert Albou.
Bonjour.
Et tout à l'heure, Tanguy Bassureau et notre invité, Monsieur Didier Van Comella.
Bravo.
Bonjour. Bienvenue Didier.
Bonjour.
Bienvenue, vous signez J'ai perdu Albert, un nouveau roman chez
Albin
Michel.
Mais c'est la blague du jour.
C'est plutôt Jules que vous avez perdu. C'est plus une question de chien maintenant, c'est une question de fantôme, puisque cet Albert, c'est Albert Einstein, qui a décidé d'habiter dans l'esprit, dans le corps d'une dame qui monnaie sa présence au début.
Une oui. Médium.
Oui, mais enfin, elle s'est plafonnée.
Et puis elle reverse ses associations.
Ouais. Au-delà de 300 euros par semaine, elle demande au client de Revert de faire un chèque à des associations caritatives.
Mais elle consulte les plus grands, enfin du moins les plus grands de ce monde, la consulte, que ce soit pour faire la guerre, que ce soit pour savoir...
Pour retrouver l'amour, que ce soit pour...
Des décisions plus personnelles ou plus importantes. Le souci arrive quand Albert ne répond plus justement et ne la conseille plus.
Oui, parce que depuis ses 12 ans, elle a en elle cette source d'information. Et là, c'est cette voix qui lui parle. Parce qu'on lui a mis cette voix un peu dans la tête en lui disant depuis son enfance qu'elle est l'arrière-petite-fille illégitime d'Einstein. Pendant le voyage qui emmenait Einstein en exil aux États-Unis sur le paquebot, il y avait une femme de chambre, très jolie, et c'était son arrière-grand-mère. Est-ce vrai ou pas? On le découvre dans le livre, mais toujours est-il que cette présence d'Einstein s'est installée, a été confortée, et... Ben voilà, les années ont passé, comme les gens ont besoin d'être renseignés sur tout, qu'on pense à leur place, qu'on leur dise leur avenir, qu'on leur dise les décisions qu'ils doivent prendre, elle est devenue incontournable. Et le gouvernement, l'OTAN...
L'OTAN, c'est pas rassurant, l'OTAN, quand même.
Oui, et vous savez que c'est pas forcément de la fiction.
François
Mitterrand était un grand consommateur.
Oui, bien sûr, François Mitterrand est l'un des seuls qui en ait vraiment parlé avec Jimmy Carter et Ronald Reagan.
Il y a malheureusement des frappes qui sont décidées sur une usine de chaussures. Si ma mémoire est bonne.
Parce qu'elle se plante. Le grand problème de la médiumnité, c'est l'interprétation. Mm-hmm. Et là, tout à coup, elle fait vraiment de la surchauffe, Chloé, parce qu'elle est malheureuse en amour. Elle a un mec qui se sert d'elle, en fait. Elle a même triché parce que le patron d'un laboratoire pharmaceutique avait besoin de son avis pour l'entretien d'embauche. Et ben, celui qu'elle choisit parmi les photos de CV, c'est son
hasard.
Mec. Voilà. Donc, elle est borderline, elle s'est quand même mise hors jeu. Et là, ben, en plus, comme le type la trompe après s'être servi d'elle, elle a un flash parasite à base de chaussures. Et tout à coup, elle croit que c'est ça la cible. Et le truc est bombardé. C'est tout le danger, en fait, même si la médiumnité est parfois une réalité, ça ne veut pas dire qu'elle soit juste, que les informations soient exactes, ni pertinentes, et qu'on les interprète bien.
Vous alors, y l'esprit, croyez, quoi. Vous y croyez,
clairement. Je constate. Je ne suis pas un homme de croyance. Je suis un homme de...
Mouillez-vous, constat.
Ouais, assumez, vous pouvez pas dire je constate. Vous
non, mais c'est pas une question de croyance. Lorsque le
c'est pire, même quand vous dites je constate, ça veut dire que vous avez des preuves que ça existe.
Oui, Joe McMoneagle, qui est venu à Paris il n'y a pas longtemps en conférence, qui est un officier qui a travaillé pendant 20 ans pour le programme Stargate, donc l'espionnage à distance de médiums par les États-Unis dans les années 70-80, et a été décoré, et c'est la citation dit cela, pour 120 missions d'espionnage à distance réussies sur des photos, sur des cibles trouvées. Donc là, on est, je vous dis, c'est pas un moment de croyance, on est dans un coming out que tout le monde, parce que c'est les Russes qui ont commencé à Staline et sa médium, on sait très bien tout ce qu'elle lui a fait faire. Donc,
qu'est-ce qu'elle lui a fait faire?
Tuer des millions de gens.
Par exemple?
Entre autres, ouais.
Mais bon, il aurait peut-être fait ça sans elle. Médium,
mais vous savez qu'elle m'a soigné parce qu'à la fin, quand il est vraiment tombé malade, il réclamait ses médecins, on lui disait, mais vous les avez envoyés au goulag. Et en fait, il n'y avait plus que sa médium qui avait échappé au goulag, donc il était sous l'emprise. Tout ça pour dire que nous sommes gouvernés, comme le disait François Mitterrand, par les forces de l'esprit. Mitterrand qui avait installé un marabout dans les jardins de l'Élysée, Thierry Puister avait écrit.
Non, c'est un président de la République. Non mais blague à part, vous-même, vous avez été entre guillemets visité par Einstein. Vous le racontez d'ailleurs à la fin du livre.
Moi non, ce sont des médiums qui ont reçu des messages m'ont communiqué plusieurs médiums avec des choses parfois qui se sont révélées prémonitoires exactes, comme par exemple la détection des ondes gravitationnelles qu'Einstein avait prédit il y a 100 ans, et tout le monde avait ricané, et puis voilà, ça a été détecté en Amérique, et un mois avant cette annonce, des médiums ont reçu cette information.
Et vous faites appel aussi à un médium dans votre activité d'écrivain pour savoir s'il faut continuer avec l'histoire de Jules et du chien, ou s'il faut passer à autre chose.
La fin du livre. Non, jamais. Si vous voulez, je suis un fou de libre arbitre. Et ma première expérience, c'était quand j'étais adolescent avec une voyante qui m'a prédit des trucs horribles. Ah. Et je me suis dit, non, ça, je vais la faire mentir. Et j'étais très fier parce que c'est moi qui ai gagné. Vous savez, une information parfois aide à recevoir une information dont on ne veut pas, permet de dégager les énergies qui dorment en vous pour vous permettre de modifier la réalité. C'est ça qui m'intéresse.
Oui, si je vous dis que vous allez mourir demain en traversant la route, vous allez faire gaffe en traversant.
Exactement.
Voilà.
Ouais. Mais
oui, mais donc la voyante pourra toujours dire voilà, j'avais dit qu'il allait se faire écraser. C'est simplement lui qui a fait attention pour ne pas se faire écraser, mais j'avais quand même raison. Donc elle a toujours raison que vous fassiez écraser ou pas.
C'est ce qui arrive dans le livre d'ailleurs au début.
Oui, mais dans l'autre sens. Non, ça c'est la cliente, c'est une obsédée.
C'est la cliente.
Une obsédée, la voyante qui elle ne fait rien sans l'avis de sa médium et elle lui dit mais j'ai des mauvais pressentiments en ce moment, je rêve que je me fais renverser. Elle lui dit mais non, ne projetez pas de négatif, et donc elle est rassurée, elle lui dit vous entrez dans une grande période de chance, elle repart toute contente et elle se fait renverser par une voiture en bas, et après elle dit, oh,
grâce à vous,
comme vous avez bien fait de ne pas m'annoncer, je sais que vous aviez vu cet accident, mais si vous me l'aviez annoncé, j'aurais fait attention à traverser, et mon mari n'aurait jamais été aussi gentil qu'il est avec moi aujourd'hui à l'hôpital. Donc ça, c'est le besoin de justifier la croyance
comme le
des
collier.
Gens qui sont accros.
Comme le collier, ne pas laisser dans le tiroir de voilà. chevet de
l'hôpital.
Et il est volé.
Ouais. Non, mais ça alors, la frontière entre le normal et le paranormal vous a toujours intéressé?
Ouais, c'est-à-dire que d'abord elle n'existe pas parce que le normal c'est une notion provisoire. Ce qui est normal aujourd'hui, hier était complètement paranormal ou anormal. La science avance de plus en plus et prouve certaines choses qui avant étaient considérées comme surnaturelles.
Et qui est le plus heureux de celui qui est envahi par ce fantôme d'Einstein ou qui au contraire veut s'en débarrasser? Parce que c'est aussi l'autre problème du livre.
Ah ben, le problème, c'est déjà vivre avec cette cohabitation tout le temps. C'est peut-être un don, mais c'est pas un cadeau. Et puis un jour, Einstein s'en va. Il déménage. Et il déménage dans un buffet de gare parce que Chloé est en surchauffe, elle fait n'importe quoi.
Il déménage pas dans un buffet de gare.
Non, on est dans un buffet de gare. Et le serveur vient prendre la commande de Chloé et il ne prend pas que la commande. Voilà. C'est-à-dire qu'Einstein
prend Chloé.
Se retrouve.
Non plus.
Ou ça c'est plus tard. Ouais. Einstein se retrouve dans la tête de ce garçon de café, par ailleurs apiculteur en déroute.
Et c'est pour ça.
Et en fait, c'est un cauchemar pour elle. Comme pour lui, elle qui n'a plus aucune info et tant de gens qui sont suspendus à ses lèvres pour prendre des décisions importantes ou et lui qui à cause de ces infos en jet continu dans sa tête, lui qui est complètement matérialiste, qui croit en rien, qui est englué dans ses problèmes d'abeilles qui meurent, de loyers à payer et tout,
qui est viré en plus.
Il se vire parce qu'il retransmet les informations qu'il reçoit, il a pas le mode d'emploi et il réussit à en 24 heures
sans filtre, il dit tout,
à se faire
et donc
virer,
c'est vrai.
À se faire castagner, à tout perdre, et jusqu'au moment où il parvient à trouver le moment où si cette voix est venue en lui, l'associer à cette cliente comme ça un peu bizarre qu'il revoit dans une émission à la télé le soir où elle est invitée comme médium, et là il va l'aborder, et c'est là où on se rend compte que est-ce qu'Einstein a simplement quitté l'un pour l'autre ou est-ce qu'il a voulu les préparer l'un à l'autre et agir comme une sorte de trait d'union parce qu'il a peut-être besoin d'un binôme.
Parce qu'il y a toujours de l'amour chez Didier Van Kovelaart.
Ouais, il y a aussi, il y a un peu de tout. C'est-à-dire pour moi, tout doit marcher ensemble. C'est-à-dire la complémentarité, l'amour, la perturbation aussi, et l'idée que des gens qui sont absolument pas faits l'un pour l'autre sont peut-être les plus complémentaires qui soient.
Et en tout cas, il veut aussi régler, régler son passage sur Terre, Einstein. Il n'a pas eu le temps de faire suffisamment de bien ou on lui a prêté trop de mauvaises intentions. Je voulais juste revenir sur les abeilles, et pas avant que nous parlions peut-être de la bombe nucléaire, mais sur les abeilles, il pensait vraiment qu'arriver un certain nombre d'abeilles, ça serait la fin.
Dans les 4 ans qui suivent.
C'est ça, dans 4
oui,
ans.
Oui, il a vraiment dit cette phrase qui est contestée par des internautes et souvent des gens proches de Monsanto et compagnie qui disent c'est les écolos qui ont inventé ça. Non, non, non. Einstein a bien dit, et il l'a écrit au prix Nobel Carl von Frisch et à mon ami le professeur Rémi Chauvin, le jour où les abeilles disparaîtront, l'homme n'aura plus que 4 années à vivre. Simplement parce que 80% des fruits et légumes ont besoin des abeilles pour se polliniser. Et que si elles font plus boulot, eh bien, il y a juste une équation, il y a un modèle sur lequel Einstein avait travaillé pour montrer que la rupture de la chaîne alimentaire va finir par entraîner cette disparition.
C'est pour ça qu'il va choisir ce garçon apiculteur, parce que...
Il veut terminer
la réussite.
Vous savez, Einstein a écrit aussi de son vivant, je crois en une vie après la mort parce que l'énergie ne peut pas mourir. Elle se transforme, elle circule, elle ne s'arrête jamais. Et c'est un peu ce que j'ai voulu montrer dans ce roman à travers ce parcours posthume d'Einstein qui continue, oui, à être gouverné par ses obsessions. Essayer d'arrêter les guerres, que les hommes se comprennent mieux, qu'ils se prennent en main, qu'ils prennent leur destin en main et sauver leur planète. Et sauver donc les abeilles.
Et se racheter aussi un tout petit peu parce qu'ils se sentent coupables de cette bombe.
Ah, ça c'est un autre problème.
Il est quand même évoqué plusieurs fois dans le livre. Oui,
oui, c'est un autre problème parce qu'on lui a collé cette fausse culpabilité. Dos, ouais. Parce que oui, c'est la formule E égale MC2, libération de l'énergie, qui est à la base évidemment de ce qui a donné la bombe atomique. Et Einstein savait, quand il était en exil aux États-Unis, que Heisenberg travaillait à la bombe atomique pour les nazis. Et il a écrit au président des États-Unis pour l'avertir de ça, dire attention, ils vont, vu le niveau de compétence de ces gens-là, ils vont y arriver. Ne vous laissez pas dépasser. Ouais. Et Einstein n'a jamais de nouvelles, cette lettre. Pourquoi ? Parce que Edgar G. Hoover, le patron du FBI pendant 50 ans, a décrété qu'Einstein était un agent soviétique. Et il fait construire la bombe à Los Alamos par tous les grands physiciens, sauf Einstein qui n'est pas au courant. Et les meilleurs amis d'Einstein ont l'obligation de ne rien lui dire. Donc ça s'est construit sans lui. Et après, on lui a collé la responsabilité. Et Einstein, au moment...
Parce que ce sont sur ses études que tout a été
dit. Oui, mais on oublie par exemple qu'il a fait des pieds et des mains pour essayer de dissuader les Américains, le président, d'envoyer la bombe à Hiroshima. Parce que ça ne servait plus à rien, vu où en était la résolution du conflit. C'était juste une épreuve de force destinée aux Russes. Donc il s'est battu. Et alors ça, tout le monde a oublié. Et il porte évidemment ce fardeau de culpabilité totalement injuste, qui est aussi une des raisons de la continuité de sa pensée.
Vous voulez le aussi
rendre justice, parce que voilà. Et... même s'il a beaucoup de réserves, lui, sur le terme de justice, tellement il a connu d'injustice et de persécution.
Et à quel point vous vous êtes documenté justement sur Einstein, parce qu'il y a plein d'épisodes qui relèvent de sa véritable existence. Qui vous avez consulté? Vous parliez d'un de vos amis qui était proche.
Le professeur Rémi Chauvin, qui est mort il y a quelques années, à près de 100 ans, avait été le plus grand spécialiste français des abeilles. Ouais. Ça a été un ami pendant 20 ans. C'est lui qui suis qu'un littéraire de départ, qui m'a vraiment initié à la science, au comportement des animaux, à ces choses extraordinaires qui sont très très romanesques finalement, même si elles sont vraies. Et lui donc avait commencé à m'ouvrir les yeux sur ce qu'il y a derrière la légende d'Einstein et l'icône. Et puis quand j'ai écrit La femme de nos vies, c'est la première fois où je l'ai mis en scène dans un roman, et depuis
il
m'a plus quitté.
Il y a 5 ans, et vous, parce qu'il était persécuté par les nazis, c'est surtout ça qui vous a...
Mais pas, bon, ça on le sait, par les nazis en tant que juif, mais ensuite aux États-Unis
par le FBI.
Par le FBI en tant que supposé agent soviétique. Un pur fantasme de Hoover.
Constamment persécuté.
Oui. Et heureusement qu'il y avait les femmes pour aérer un petit peu ces persécutions qu'il subissait. Et Einstein était un grand amoureux compulsif qui se lassait vite, mais qui a rendu les femmes très heureuses. Même quand il leur a fait des choses pas très délicates.
Je savais que j'avais des points communs avec cet homme.
Il n'y en a pas une qui a dit du mal de lui, c'est tout ce que je vous souhaite.
J'ai perdu Albert, le nouveau roman de Didier Van Kovelaert aux éditions Albin Michel. J'espère, mon père Albert, que vous avez bien compris pourquoi Didier était notre invité aujourd'hui.
Mais je le sais d'autant plus, Nangui, que comme je m'y attendais quand je suis arrivé dans le bureau de la bande originale, juste avant l'émission, alors que JNB, notre craintif rédacteur-chef, s'était approché de vous avec, dans une main, votre fiche, où il avait rédigé toutes les questions à poser à l'invité, et dans l'autre main, un livre, alors qu'il vous tendait cet ouvrage en vous disant « Voilà, j'ai perdu Albert !» Sans prendre le temps de saisir le bouquin, vous lui avez balancé un maigri, un coup de pied de face, dont la violence gravitationnelle, certes atténuée par lambeau caoutchouté de votre basket Louboutin, doublé en alpaga, lui décrocha tout de même la mâchoire, ce qui rendit peu audible l'explication que JNB tenta alors de vous donner. Une bouillie verbale qui redoubla votre exaspération, Nangui. Tandis que JNB tentait de se raccrocher les mandibules, vous vous écriâtes. C'est seulement 3 minutes avant l'émission que tu me dis avoir perdu Albert. Ça tombe très mal. Albert, c'est le seul qui tienne la route dans cette bande de bras cassés que je traîne ça comme va. Un collier de boulets quand il est là. Quel que soit l'invité.
Pour une fois que c'est vrai.
Je sais que ça va super bien se passer. Et puis, outre sa vivacité d'esprit, sa grande culture, ce que j'apprécie chez lui, c'est sa grande modestie. Pas le genre de mec à se mettre en avant, à se la jouer. Et puis ça le gêne qu'on dise du bien de lui à ce micro. Vous interrompant dans un suprême effort, JNB vous a alors tendu le roman de Didier Van Kovelaert en annonçant « Rire du Havert ». Jetant un regard rapide à la quatrième de couve de « J'ai perdu Albert », vous avez alors lancé Nangui. « Quoi ? L'histoire d'une médium hantée par l'esprit d'Albert Einstein ? C'est vraiment n'importe quoi, j'ai jamais cru à ces saloperies de charlatanerie, jamais !» Voilà, chers auditeurs, ce qui s'est passé juste avant l'émission. Mais, comme tout laisse à penser qu'Albert l'habite, je vais procéder sur Didier Van Kovelaert à un exorcisme flash. Terogamus immundus spiritus Albertis Einsteinis vade retro mathematicus diabolicus exeat Didierum Van Kovelaertum. Voilà.
Merci Albert.
Je crois que ça a marché.
Merci mon père.
Vous pouvez continuer l'émission bien, avec Didier Van
Kovelaert. Merci. Albert. La bande originale. Nagui. Sur France Inter. Leïla, vos oreilles ont sifflé quand on vous a dit que Didier Van Kovelaert revenait dans cette émission.
Oui, et quand je pense à vous, Didier Van Kovelaert, j'entends la voix d'un écrivain et un discours que vous auriez pu prononcer.
C'était un travailleur acharné, me dit sa fille aînée, dès 8 heures du matin. Je lui réponds que le travail acharné peut commencer à 11 heures du soir, jusqu'à 8 heures du matin. Mais il y a un certain charme à se réveiller tôt, que vous m'apprendrez, mesdames et messieurs de l'Académie.
C'est un court extrait du discours d'entrée de François Weyerkens à l'Académie française en 2009, un discours en hommage à Maurice Reims, un fauteuil pour lequel vous étiez candidat, Didier Van Kovelaert. François Weyerkens, fidèle à son habitude, est arrivé en retard ce jour-là. Et vous, vous étiez prêt? Vous aviez préparé un texte au cas où?
Non, parce que...
On vous l'avait dit?
Ça se fait longtemps après, ouais, le discours de réception.
C'est quand même
une année. Non, pour une fois, il n'est pas arrivé en retard au moment de l'élection. Enfin, il s'était présenté juste à la limite.
Ouais.
Et là, il est allé très très vite. Et il a fait une campagne éclair extraordinaire. Et voilà, j'ai été le favori avant son arrivée. Oui. Puis après, il a remporté le truc. Donc très bien, chapeau.
Vous aviez retenté le coup en 2013, mais l'élection a été déclarée blanche faute de majorité.
Oui, j'ai eu le même nombre de voix, oui.
Est-ce que ça vous retenterait? Parce que j'ai lu quelque chose d'assez
touchant. Ou est-ce que ça vous fatigue, en fait, c'est ça?
Je ne sais pas. En classe de 5e, vous deviez écrire un texte d'invention.
J'ai écrit le discours de réception de Saint-Antonio à l'Académie française.
Voilà, donc c'est déjà vous étiez...
Donc ça, j'en suis très fier. Et c'est dur, j'avais mis la barre très haute.
Mais
Et bien, j'avais un prof génial en 6e qui avait donné, fait la parodie d'un discours officiel. Et comme je lisais beaucoup Saint-Antonio à l'époque, et ça commandait... Ça commençait par chère birbe et vieille rombière. Et j'avais un petit peu anticipé car il n'y avait pas l'époque de femmes à l'Académie. C'est dire que mon féminisme latent avait déjà anticipé l'élection de Marguerite Yourcenar. C'est la pression. J'y étais allé par pression amicale. Il y a eu un certain nombre de. Bon, mon premier bouquin a reçu un prix, le prix d'El Duca, remis par Maurice Reims, qui après à chaque livre me disait, pas par Maurice Reims, pardon, par Maurice Schumann, qui après me disait à chaque livre...
Arrête.
puis Serge Hetre rencontre ce monde quand vous présenterez à l'Académie. Et puis ça continue avec le professeur Jean Bernard qui m'a beaucoup incité. Et puis d'autres. Et puis Félicien Marceau qui j'avais connu dès ma première pièce et pour qui j'avais une immense admiration et qui me disait j'aimerais bien être encore de ce monde quand vous présenterez à l'Académie. Et un jour il m'appelle et il me dit je sors de chez mon médecin. Voilà. Alors il vous conseille de pas trop attendre pour vous présenter. Et ça m'a tellement fait rire et ça m'a tellement touché que j'ai envoyé ma lettre de candidature. Moi je fonctionne comme ça. Ça, c'était pour l'élection de fauteuil de Maurice Reims. Ouais. Et la deuxième fois, c'était à la mort de Félicien Marceau, parce que là, j'avais vraiment très envie de prononcer son discours. Donc aujourd'hui, j'ai plus ce genre de motivation amicale, urgente, et comme je fonctionne à l'urgence, je suis occupé à autre chose.
Et il y a forcément un militantisme, faire partie de l'Académie, au-delà des incitations amicales, c'est aussi être là pour veiller sur la langue française. Est-ce que
tous les jeudis
c'est veiller. Oui, mais c'est pas que tous les jeudis. Notamment moi qui
j'ai la chance d'être il y avait des réunions tous les jeudis pour
mais c'est pas que le jeudi. C'est-à-dire c'est aussi dans le monde entier, ça représente des choses l'Académie française.
C'est
sur la francophonie, moi qui voyage beaucoup et qui vois combien le français à chaque fois perd des marchés parce que les anglo-saxons se donnent un mal que jamais. Les ministères des Affaires étrangères ne s'est donné. On voit ce qui se passe au Liban, ce qui se passe en Afrique, combien l'amour du français qui sous-tend toujours les gens n'est pas du tout relayé par des efforts économiques et des bibliothèques.
Ni par les ambassadeurs, ni par les ministres.
Et il n'y a pas de budget. Donc voilà, moi je suis un peu en emmerdeur de ce côté-là et j'aime bien ma patrie, c'est la langue française. Donc c'est une langue que je trouve tellement belle et tant de personnes comme on voit au Québec, comme on voit en Afrique, comme on voit au Liban, se battent. Et se battent en courant des dangers parfois pour cette langue. Je trouve que vraiment la France ne fait rien. Et par exemple, c'est vrai qu'un académicien français, pour moi, c'est quelqu'un qui doit aussi, comme le font des gens comme Ruffin, Orsena, tout ça, qui rayonnent en tant qu'auteur à l'international, doivent, là, avoir ce genre de mission d'agitateur. Quoi.
Il y a une belle ambassadrice qui est Leïla Slimani pour la francophonie.
Oui, il faut la citer. Hein.
Ouais. Absolument, oui. Ouais. Et qui fait un super boulot.
Et je me demandais, on connaît peu ça, mais les coulisses d'une élection à l'Académie française, c'est une campagne. C'est comme une campagne présidentielle. Il faut avoir des incitations amicales et donc savoir qu'on peut compter sur un certain nombre de voix. Mais il y a Jean-Christophe Ruffin.
Généralement, vous divisez par deux.
C'est vrai, et puis, ceux qui promettent et ceux qui le font vraiment.
C'est ce qu'on vous dit, oui, voilà. Et puis, il y a cette... Je ne sais plus qui c'était.
C'est comme les participations aux manifestations. C'est selon les organisateurs.
Un grand académicien très connu qui lisait un candidat, mais qui s'étonnait de ne pas avoir eu... sa voix, il me dit, écoutez, je vous ai promis ma voix, vous ne vouliez pas qu'en plus je vous la donne.
Oui, non, parce que c'est vraiment tout un monde souterrain qu'on connaît peu, mais c'est des alliances, c'est faire campagne aussi, c'est essayer de convaincre les autres de voter pour vous.
Non, faut pas exagérer non plus, non. Il y a une tradition de la visite qui se perd beaucoup d'ailleurs, parce que des tas d'académiciens n'ont pas envie de venir être emmerdés à domicile, donc...
Il faut faire la tournée.
Ouais, mais c'est la tournée de plus en plus courte parce que c'est une petite tradition qui se... Mais ça m'a permis de rencontrer chez eux des gens assez incroyables et j'étais content de cette expérience.
Mais on a bien le sentiment que ça ne va pas se reproduire de sitôt, à vous entendre. Didier Van Kovelaar signe « J'ai perdu Albert », ce roman chez Albin Michel. Nous, on n'a pas perdu Jérémy de Créville.
Jérémy de Créville.
Oui, petite nominable maintenant.
Merci Guilin. Les amis, j'ai une question. Quelle est la distance entre l'avenue des Champs-Élysées et la Porte Dauphine?
La distance?
Ouais. Vous pouvez jouer aussi chez vous avec cette question formidable. Ça égayera votre journée morte, appelez-nous.
Allez,
les chaussures de Nagui sont en jeu.
2 km.
2 km?
Aucune idée de 2 km 5. Allez.
Ah, en tout cas, on me dit dans le casque que personne n'appelle le standard de France Inter pour gagner les chaussures. Alors, le soutien-gorge de Leïla, peut-être? Ah oui, attendez, on a un appel. Allô? Non, Tom Villa, les membres de la bande ne peuvent pas jouer par téléphone.
Belle imitation de Tom Villa.
Ouais. Donc alors, entre les Champs-Élysées et la Porte Dauphine, personne, même dans le studio, ils sont vivants?
T'as dit quoi? 1
km et demi.
Et non, c'est 42,195 km. Oui. J'ai bien dit kilomètres.
Entre quoi?
Entre l'avenue des Champs-Élysées et la Porte Dauphine. Ce dimanche, avait lieu le marathon de Paris.
Mais oui,
les concurrents sont partis de l'Arc de Triomphe pour arriver 42 kilomètres plus tard à la Porte Dauphine, ce qui prouve que les Kenyans et les Éthiopiens n'ont aucun sens de l'orientation. Et surtout qu'ils sont têtus. Hein. Excusez-moi, je crois que c'est plus court par là. Monsieur, putain, la vache, il court vachement vite, il y a un moteur ou quoi? Ces gens-là sprintent pendant 42 kilomètres. 42 kilomètres, même en métro, c'est éprouvant.
À la vitesse où vont les premiers, il ferait le tour du périph' en 1h45, c'est plus rapide qu'une voiture un lundi matin. Pour ma part, j'ai déjà couru deux marathons. Oui, quand je me trompe, j'aime bien être sûr. Pour vous le prouver, j'ai ramené mes deux médailles. Vous voyez,
C'est vrai.
2016-2017. Alors, je ne mets pas autour de mon cou, ça fait vache de concours. Mais la première fois, j'avais fait un chrono de merde. Pour vous donner une idée, j'aurais pu regarder une fois et demie le film Titanic. Et la seconde fois, j'ai réussi à faire pire. Deux fois le marathon de Paris, c'est deux pintes de particules fines. Il m'a quand même fallu 84 km pour me dire que j'étais pas fait pour ce sport, parce que tout simplement, j'aime la vie. Non mais, mon corps n'est pas adapté à cette discipline. Pour boucler un marathon en un temps correct, il faut un corps de victime. Non mais c'est vrai, un bon marathonien, c'est un corps de gréviste de la faim. Ils sont aussi secs que les gâteaux de riz qu'ils mangent. Moi, je suis lourd, on me le dit souvent, d'ailleurs, il n'y a qu'à regarder les commentaires sous les vidéos de mes chroniques postées par le stagiaire de France Inter. Par contre, quel que soit ton corps, quand tu fais un marathon, il y a forcément un moment où tu te dis « qu'est-ce que je fous là ?» Comme les gens derrière moi, ils se disent « qu'est-ce qu'il fout là ?» Non mais « qu'est-ce que je fous là ?» c'est pas le « qu'est-ce que je fous là ?» que tu te dis quand t'es dans le cellier parce que t'as oublié ce que tu venais y chercher. Non, non, c'est plutôt le « qu'est-ce que je fous là ?» dans le sens « pourquoi je cours 42 km alors que je pourrais faire ces 42 km assis dans un véhicule ?» Il y a des indices en plus pour te dissuader de faire un marathon. Déjà, pendant tout le parcours, il y a une ligne verte au sol pour t'indiquer le chemin. On est d'accord, la ligne verte, c'est la ligne des condamnés à mort. On est d'accord, c'est, elle est au sol. Et puis en plus, tu payes pour courir 119 €. 119 € les 42 bornes, il y a des taxis, motos moins chers. 119 €, c'est un week-end de 3 jours dans les gorges du Verdon. Hein, je sais pas, il y a des gens qui n'ont pas payé le 3e trimestre de scolarité de leurs enfants pour courir. Ça se lit aux pancartes qu'ont préparé les gosses, hein, ils arrivent à faire des fautes à « allez papa » sur le mot « papa ». Les gens qui t'encouragent sur le bord de la route, tu trouves ça sympa au début, hein, sauf qu'à un moment tu les hais. Il y en a qui font « allez, on est à la moitié !» Non, moi j'ai couru la moitié. Toi t'es derrière ta grille, hein. Putain, que la moitié, oh là là. Et les connards qui savent pas compter aussi, hein, au 38e kilomètre, allez, plus que 2 kilomètres. Non mais attends, c'est fou. Je jure, c'est épuisant. C'est quand même ceux qui sont derrière les barrières avec une bière qui te donnent des conseils pour courir. Faut s'en méfier comme des coiffeurs chauves. Au 30e kilomètre, t'as mal à des endroits improbables, genre les tétons. Oui, je vous le dis, courir, ça fait mal aux tétons.
Tu cours avec quoi, toi?
Ah ben, écoute, des fois, je rampe. Non, mais il faut vous imaginer courir pendant 12 kilomètres avec un Yorkshire qui vous mâche les mamelons. J'ai rendez-vous avec une orthophoniste tout à l'heure. Le lendemain, au boulot, vous avez l'air bien con. Vous pleurez devant les escaliers. Vous marchez comme si vous aviez eu une expérience étrange avec un âne. Et vous avez une médaille autour du cou. Elle est pas en or, mais elle vous a coûté 119 balles.
Merci, Jérémy
Crédville. La bande originale. Explique à Nagui qui est intrigué pour les tétons.
De quoi ?
Non, c'est toi qui peux expliquer. Ça, ouais. C'est le t-shirt qui frotte, c'est
ouais,
ça ?
Le frottement exact. Sur le téton, ça peut te le mettre à vif.
Ah ouais.
Donc souvent, voilà, ou alors ils mettent des pansements ou voilà ou des choses. Dessus.
D'accord. Non, mais j'ai jamais couru plus de 2,50 m. et les médailles sont vraies. On avait
ah oui,
avec Daniel,
vrai,
avec Ella.
2016-2017.
C'est pas du toc. Et t'as pas voulu courir cette année ?
Ah non. Non.
C'est pour ça que t'es un peu. Enfin bon.
Ouais,
je te remets les médailles. Merci, Jérémy. On parlera avec Didier Van Kovelaert, qui est notre invité, qui signe J'ai perdu Albert. On parlera avec Laurent Sexic, qui est médecin et écrivain, l'auteur d'une biographie sur Albert Einstein dans quelques instants. Mais d'abord, en musique, vous écoutiez Georges Brassens en 78, Didier.
Ancien enfant de Marie Salope, Mélanie, la bonne au curé de danser. Trompe de Fallope s'introduit le cierge sacré, le cierge de cire d'abeille, plus onéreux mais bien meilleur, plus onéreux mais bien meilleur.
On retrouve les abeilles, hein.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
La qualité se paye à Saint-Sulpice comme ailleurs, à Saint-Sulpice comme ailleurs.
Et c'est Mélanie hein, qui se met les cierges.
Voilà, on est en 78.
Je l'embrasse.
Voilà, Didier Van Kovelaert. À cette époque-là, vous faites des études en lettres classiques et vous exercez deux professions assez étonnantes. Vous enseignez la voile et le chant.
Oui, deux occupations voilà, à but lucratif fondées sur l'imposture.
Et sur la Méditerranée.
Ouais, c'est-à-dire que je suis assez nul en planche à voile et je connais rien au chant, mais je suis assez persuasif. Et en fait, c'est les débuts du windsurf, donc on pouvait encore faire illusion. Et puis,
j'adore.
Mais je n'avais
c'était
que
pour draguer.
Oui, c'était pour draguer, bien sûr. C'est avoir entre ses mains une jeune fille sur une planche comme ça qui est très instable et tout ça.
Qui ne sait pas nager en plus.
Position. Voilà, c'était.
Et le chant.
Mais non, mais j'étais bénévole dans une asso comme ça pour faire des planches à vol. Et puis finalement, voilà. Et puis j'étais gratifié quand même pour ce genre de choses. Mais non, alors le chant, c'est autre chose. Et oui, j'avais une troupe de théâtre et à un moment donné, on a mis en scène un spectacle avec de la chanson et j'avais ça placé les voix parce que je connaissais un petit peu les techniques de souffle et l'une de mes camarades que j'avais mis en scène à cette époque est devenue une chanteuse professionnelle et un jour a dit dans les interviews oui c'est Didier Van Kovelaert qui m'a placé la voix donc,
c'était Maria Carré
justement on va comme quoi l'imposture quand on est cru et quand on est ça peut donner du talent aux gens qui en ont déjà quoi ça peut les conforter.
Non, imposture, vous.
Ce qui.
Je crois pas que vous soyez un imposteur, mais je.
En planche à vol, si,
je pense. Sauf que on ne sait pas s'il a réussi à draguer ou pas, parce qu'il a fait ça pour. Est-ce que ça va marcher? Ok. 1983, ce qui a fonctionné par contre, c'est le théâtre.
Il y aura du monde, assurément.
Et là, vous écoutiez.
Au nom du père, au nom du fils, Sylvie le tous à l'enterrement. Ce que j'aimais de père en fils, ça me fait un gentil régiment. Me rendant les derniers offices, pour mes bons et loyaux services, le jour de mon enterrement. Pour mes bons et loyaux services, le jour de mon enterrement.
Barbara, il y aura du monde le jour de mon enterrement.
Et 83, c'est l'année de votre première pièce de théâtre, Didier Van Kovelaert.
Oui, pendant que je faisais mon service militaire. Et j'avais vu en 81, Barbara, l'hippodrome de Pantin, Barbara était quelqu'un de très important dans ma vie. Voilà, on s'est rencontrés plusieurs fois et on correspondait par fax. Elle écrivait à des fax gigantesques parce que son écriture était très grande. Donc, un fax pour une première de théâtre pour dire merde, il y avait 15 pages, quoi. Et donc, oui, ma première pièce, l'astronome, avec une générale qui était pleine de colonels, puisque la caserne du Plex à Paris avait fourni des camions pour
déverser
pour
le public.
Les troufions. Oui, c'est ça, parce qu'il faut quand même amorcer le public. Et il y a eu des appels rue de la Gaîté à Montparnasse. J'en disais, ça y est, il y a un coup d'État, l'armée dans les
rues.
Non, c'était juste pour venir remplir mes salles.
Oui, parce que vous faisiez des interviews la journée et puis le soir, retour à la caserne, fallait nettoyer.
Oui, c'est ça,
quoi.
Mais moi j'adore ce décalage, c'est-à-dire faire les chiottes à la caserne et puis après passer l'interview journal télévisé, ça donne un voilà.
Il y en a qui font l'inverse.
Décalage.
Et vous n'avez pas éprouvé de difficulté pour monter cette pièce? Comment? Parce que.
Bah, elle s'est montée sans moi pendant que je faisais mes classes. Ouais. Voilà, c'est Jacques Rony, le metteur en scène, et Catherine Rich, Evelyne Dandry, voilà, qui ont fait le boulot. C'était un super souvenir. C'est là que j'ai connu Jean Anouilh, que j'ai connu Frédéric Dard, que j'ai connu
Patrick Bruel.
À Patrick Bruel, je faisais mon service militaire avec lui, donc.
À Fontainebleau.
Oui.
En 1997.
Que diriez-vous de poursuivre un peu notre romance?
Dirais-je que le mot seul déjà me plonge en transe?
J'ignorais que faire l'amour était si amusant.
Au hasard, je prendrais ça comme un compliment.
Alors, expliquez-nous ce choix musical.
C'est le Passe-Muraille, donc la nouvelle de Marcel Aimé que j'avais adapté et que Michel Legrand a mis en musique. Et donc, il y a eu trois Molières en 97, création au Bouffe Parisien, le théâtre de Jean-Claude Brialy, et Isabelle Georges et Francis Perrin qu'on vient d'entendre. Et ça, c'est toujours d'ailleurs un moment merveilleux, parce que le Passe-Muraille est repris chaque année en Corée, au Japon, aux États-Unis, ça fait le tour du monde. Et c'était dans la mise en scène d'Alain Saxe qui a été reprise partout. Et puis ça a été le début d'une collaboration avec Michel Legrand. Après, on a fait Dreyfus à l'Opéra de Nice. On prépare un film ensemble. Et il a fait la musique du film que j'ai réalisé cet été, D'après j'ai perdu Albert, et qui sort en septembre.
Donc c'est une collaboration qui dure, en fait.
Ah ouais, c'est 30 ans d'amitié avec Legrand, et j'arrête pas de le voir rajeunir. Il est aujourd'hui cette espèce d'ado insupportable, une impatience qui supporte.
Vous le voyez rajeunir, ou c'est votre vue qui baisse?
Ça se passait bien jusque là.
Non, c'est au niveau de l'oreille, mais l'audition.
Ça s'est entendu, ce que je pensais.
Oui,
bien sûr.
Ça arrive aussi.
L'audition est bonne.
Mais non, c'est une voix qui me parle.
Non, si vous voulez quelqu'un qui a sa notoriété mondiale, tout ça pourrait être quelqu'un de reposé, d'assis, de tranquille, qui a tout vu. Et non, lui, il n'y a que la création du lendemain qui l'intéresse. Et il est, c'est une force en mouvement incroyable, les musiques qu'il a fait pour mon film. Mais c'est hallucinant, c'est d'inventivité, il ne se recopie jamais, c'est, ça vous parle immédiatement, ça paraît très simple alors que c'est une composition. Et il a fait ça en 3 jours, c'est...
Et vous le laissez libre absolument de tout. Vous le laissez libre de tout.
Non, c'est-à-dire qu'on a visionné le film ensemble. Ouais. Et
faut nous parler du casting aussi du film.
Avec Julie Ferrier, Josiane Balasco et Stéphane Plaza pour la première fois au cinéma. Et
la dernière.
Oh non, parce que là, vous allez voir.
Mais non, je blague.
Encore une fois, c'est génial. Ce qui se passe dans votre tête.
Non, je blague. Je suis obligé de faire. C'est comme avec Michel Simès. En 2002, alors là, c'est très bizarre. On vous a demandé ce que vous écoutiez en 2002 et vous nous avez demandé une chanson qui a été créée ici en 2017. Donc c'était la prémonition. Vous écoutiez en 2002 une chanson qu'Alison Wheeler a chantée ici en 2017.
Oui, parce que j'avais écrit quelque chose qui ressemblait à ça dans l'esprit,
exact,
en tout cas la vengeance de filles autour d'un mec. Et quand j'ai entendu dans votre émission Alison Wheeler et Stéphie Selma chanter ça, ah, je suis tombé à la renverse. J'adore ça, c'est tout ce que j'aime dans l'humour des filles.
Et ça s'appelle Ode à mon ex.
J'ai eu du mal à me remettre de cette rupture. Il semblait aimer, c'est vrai que c'est dur. Il m'avait dit que notre histoire allait durer, qu'on finirait pas comme Élie et Dieu donné. Mais aimer, c'est aussi accepter avec philosophie qu'il puisse être heureux avec une autre femme aussi. Et quand l'amour s'en va, il te reste une amie. Et un peu la haine aussi. Alors je te souhaite une femme qui te rende heureux, qu'elle ait des plus gros 5 mois bien fermes et bien laiteux. Je souhaite que vous mariez mais qu'il flotte ce jour-là, d'avoir un chien aveugle et des triplés siamois qui t'abandonneront comme une vieille chaussette en prétendant aller acheter des cigarettes. Puis tu finiras seul en attendant la mort, tu te suicideras avec tes remords. Tu prendras un aller direct pour l'enfer, tu seras dans la même chambre qu'Adolf Hitler.
Ok. Refrain.
Mais la haine ne résout rien. Toutes les bonnes choses
tous ensemble
sont une fin.
Alison Wheeler. Mais qu'est-ce qu'on a pleuré de rire. Alison Wheeler et Stéphie Selma. Donc, mais qu'il avait déjà en tête avec Rencontre sous X.
Bah, Rencontre sous X, ouais. Je racontais un peu la...
C'est un footballeur et une ex-star du porno.
Ouais, et en fait, je raconte les milieux du foot qui sont une abomination totale.
Milieu du foot et milieu du foot.
Et oui, milieu du foot, c'est plus sain, à la limite, parce que ce qui se passe, la camaraderie entre les hardeuses, par exemple, ça me rappelait tout à fait ce genre de ton là entre les deux chanteuses.
Et parce qu'en fait, c'est basé aussi sur une expérience personnelle. J'ai lu ça, en tout cas. Vous avez retrouvé une ancienne copine de lycée, je crois. Vous fantasmiez un peu sur elle à l'époque, un peu comme tout le monde.
Mais c'était la fille inaccessible.
Voilà, la fille qu'on n'a jamais. Vous la revoyez quelques années après. Et vous avez une petite aventure, je crois, avec elle. Mais sans dévoiler
elle était venue me voir dans un salon du livre. Et, dédicacé le livre. Et elle était venue me dédicacer une cassette.
Le guet-apens.
Elle faisait du foot.
Et c'est là. Non, mais celle-là, c'était un film X qu'elle m'a dédicacé en échange.
Je pensais qu'elle était footballeuse.
Non, elle était actrice.
Il faut suivre les infos de Leïla.
Et elle était mariée par ailleurs, elle avait des enfants, donc il y a une vie après. Non, mais parce que c'est aussi un sujet un peu contemporain quand on entend parler les hardeuses de leurs difficultés à se faire respecter, à s'insérer dans la société, c'est quand même pas rien.
Oui, et puis j'aime bien l'expression les travailleuses du sexe, quoi. C'est vrai que c'est un boulot.
C'est vrai.
Ça peut faire du bien à beaucoup de gens. Et on peut rester intact en faisant ça à condition d'avoir la nature humaine qui prend le dessus sur l'événement. Il n'y a pas à juger.
Et on a vu des reconversions. C'est plus difficile aujourd'hui parce que là, vous parlez d'une VHS. Maintenant, les films porno sont en ligne. Et donc, pour effacer cette présence en ligne, pour ces femmes hardeuses, j'entendais récemment l'interview de l'une d'entre elles qui disait, voilà, moi, je n'ai pas fait d'enfant, ou alors c'est difficile pour moi de me projeter dans une vie amoureuse parce que je me fais insulter de toutes parts. Jamais on pourra enlever cette image.
Vous avez raison. Mais il y a encore pire, c'est les films intimes que votre ex met en ligne. Et alors là, et ça fait autant de ravages. Et là, en plus, vous n'avez pas gagné votre vie en faisant ça. Donc, ça, c'est la civilisation de la toile qui peut amener à ces abominations. Mais j'avais bien aimé cette, ces rapports justement. Moi, j'aime bien les gens dont, bon, on a pas phrasé Brassens tout à l'heure, la manière dont Brassens parle des prostituées, parle tout ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, parce que les donneurs de morale devraient parfois s'intéresser à la manière dont les réprouvés de la société qui viennent en marge véhiculent parfois des valeurs et des émotions qui font du bien.
Oui, et puis aimer le sexe, c'est toujours soit ça fait glousser les étudiants quand on évoque quelque chose de sexy ou de sexuel, soit c'est condamné par les bien-pensants. C'est il y a pas de, on a l'impression qu'il y a pas de juste milieu.
Bah il y a que le juste avec, milieu
qui est de vivre naturellement. Bah, avec.
Regardez Einstein, le moteur de la vie d'Einstein, ce sont les femmes. C'est elles qui nettoient de toutes les saloperies que font le monde, la société masculine. Et voilà, je pense que toutes les frustrations qu'on projette sur les personnes qu'on juge, en plus ça fait pas de bien à la personne qui juge non plus, et ça, voilà, mais...
Alors, reparlons d'Einstein justement, puisque il est au cœur de votre roman, Didier Van Cauwelaert, J'ai perdu Albert, et nous avons un spécialiste, Einstein, avec vous, Laurent Sexic. Merci de venir à ce micro. Vous avez publié le cas Edouard Einstein. Dans le cas Edouard Einstein, vous levez le voile sur les drames familiaux, parce que sa vie n'a pas été simple.
Sa vie n'a pas été simple. Sa vie était une odyssée, c'était un héros qui a tout vécu, qui a été opposé à tout, qui était la cible de on l'a dit, de Goebbels. Sa tête était mise à prix. Donc il a dû fuir en 1933 l'Allemagne, on l'a dit, ensuite il a résisté à Edgar Hoover, il a été un des premiers à s'engager contre la ségrégation raciale, puis contre McCarthy. Mais ce qui m'intéresse dans ces odyssées magnifiques, dans ces héros modernes, dans ces Achilles, dans ces Hectors du XXe siècle, c'est qu'ils ont un talon d'Achille, c'est qu'ils ont des failles. J'avais écrit auparavant Les derniers jours de Stefan Zweig, ce qui m'intéresse, ce sont les zones d'ombre de ces héros magnifiques. Et c'est d'aller fouiller à l'intérieur de ces zones d'ombre. Pour moi, donc j'avais écrit d'abord une biographie d'Einstein qui était l'Odyssée d'Einstein. Et puis, en écrivant cette biographie chez Gallimard, j'ai découvert quelque chose qui n'avait pas été dit, qui avait été tu par les héritiers, qui semblait entacher, dont on pouvait imaginer qu'elle semblait entacher l'image d'Einstein. Moi, je crois que ça le rend plus grand, parce que ça le rend plus humain.
L'abandon de son fils ?
Alors, c'est pas un abandon, si vous voulez. Son fils a développé une schizophrénie à l'âge de 20 ans. Ça a été le grand drame de la vie d'Einstein. Imaginez cet homme qui était le symbole de la raison, qui voit son fils perdre la raison. Ce qu'il y a de tout à fait étonnant, c'est qu'en plus, son fils part à l'asile à l'instant où Einstein part en exil. Donc c'est une espèce de croisée des chemins, c'est une espèce de point de fuite, cet instant-là, en 1933. C'était un père très aimant. Il avait deux fils, il avait perdu une première petite fille dont on a beaucoup parlé, Liserle, et en réalité il se trouve, lui qui n'avait peur de rien, lui qui n'avait pas peur de Goebbels, qui n'aura pas peur d'Edgar Hoover, qui n'aura peur de rien, il a eu peur de la maladie de son fils. Il a eu peur de la folie de son fils. Et s'instaure entre les deux une espèce de duel que j'ai essayé d'écrire, entre ce garçon qui était hanté par ses démons, et cet homme qui était chassé par le nazisme. Donc chacun était la proie d'une folie absolue. Et ces deux hommes, ces deux individus, ce père et ce fils, vont passer leur vie à ne pas se comprendre, à ne pas se voir. Bon, il y avait quelque chose qui m'étonnait, c'était que cet homme qui était tellement bienveillant, qui était tellement humain, qui était si profondément humaniste, à partir du moment où il a laissé son fils en 1933 à l'hôpital psychiatrique de Zurich, là, ne l'a plus jamais revu jusqu'à sa mort en 1955. Et que ce fils, Edouard Einstein, est mort dans le dénuement le plus absolu à l'hôpital psychiatrique de Zurich, jardinier de cet hôpital. Il y avait une sorte de drame, c'est une sorte d'abandon. Moi, je ne mets aucun jugement. Il se trouve, à l'occasion de la sortie de ce livre, j'avais rencontré beaucoup de pères de schizophrènes, de mères de schizophrènes. Le père fuit. Le père ne peut pas supporter cette douleur de voir son fils anéanti par la folie, son fils qui le déteste par-dessus tout. Il faut dire que ce n'était pas
alors
facile.
Alors que la mère reste.
La mère, Mileva, absolument. Mileva est encore un personnage de roman. Alors on a beaucoup dit que Mileva, mais même participer aux écrits d'Einstein, oui. C'est totalement faux. Mais la mère reste à ses côtés. Il semblerait que la maladie vienne de la mère, puisque la sœur de la mère était déjà schizophrène, que la sœur de la mère était déjà hospitalisée dans cet hôpital psychiatrique où lui-même, Edouard, va être hospitalisé. La mère restera à ses côtés, mais il ne verra plus son père. Et il y a cette espèce de peur qui va habiter Einstein tout au long de sa vie. La peur de la folie. La peur de la maladie de son fils, et donc cette inquiétante étrangeté entre les deux.
Et l'impression aussi, je pense qu'il avait, que sa présence crée aussi les crises chez son fils. Il y avait un moment où il pouvait communiquer, c'était en musique. C'était quand ils jouaient au piano ou au violon ensemble. Et là, c'était ce moment de grâce. La musique est très importante chez Einstein. Il a joué du violon toute sa vie. Il se concentrait en jouant du violon. Et je pense que dans ce que tu disais, dans cette peur aussi, il y a cette idée de culpabilité préventive en disant si je suis là, je vais encore aggraver la chose.
Mais c'est tout à fait étonnant. Tu as raison. On a toujours l'image d'Einstein tirant la langue, oui. Disant merde au monde. Oui. Il y a une photographie qui est à l'origine de l'écriture de ce roman d'ailleurs, où l'on voit Einstein près de son fils. C'est l'instant des adieux. C'est la dernière fois qu'ils vont se voir. Et il y avait toujours quelque chose qui m'intriguait, c'est que près de la cuisse d'Einstein, il y avait quelque chose. J'imaginais que c'était une canne. En réalité, c'était un archer. Mm. C'est l'archer de son violon. Ce qui veut dire, en effet, et c'est ce qui le sauve, c'est que le jour où il a accompagné son fils à l'hôpital psychiatrique, il a joué pour lui du violon. Et ce regard d'Einstein, totalement perdu, méconnaissable, que l'on voit sur cette photo, lui donne toute son humanité et en dit plus sur la personnalité d'Einstein que les photos où il tire la langue.
La photo où il tire la langue, c'est parce qu'il ne voulait pas sourire. C'est au bout de la...
Ah ben c'est le harcèlement des paparazzi de l'époque.
Du photographe qui dit « souriez, il a fini par tirer la langue. C'était pas calculé ni...
Et en même temps, c'est ce qui l'a fait devenir une icône. C'est ce qui l'a fait devenir à la fois...
Oui, ça c'est le marketing qui veut ça.
Oui, absolument.
Comme le marketing de sa coupe de cheveux, de sa moustache.
Non, il était au naturel. Après, c'est simplement... En effet, les marketeurs se sont...
C'est pas lui qui l'a décidé.
Mais non. Là, vous avez raison, c'est qu'il a aussi bâti sa légende. Il a aussi construit sa légende à travers ses biographes, à travers sa secrétaire qui a écrit sa biographie. La seule chose qui n'ait pas été dite dans ses biographies de ses proches, c'est l'histoire de son fils.
Et alors, quel genre d'enfant était-il, lui ?
Alors, c'est un enfant extrêmement solitaire, extrêmement taciturne, qui a. Alors, on dit que jusqu'à 3 ans, il n'avait pas dit un mot. Il avait un crâne très très gros. Alors, ce qui est assez étonnant, sur le crâne d'Einstein, il y a beaucoup de fantasmes, sur tout Einstein, en fait. On a l'impression qu'il rassemble toutes les rumeurs, tous les fantasmes, tous les rêves de chacun. Chacun
a son Einstein. On a volé son cerveau pour essayer de comprendre les raisons de son génie. C'était absolument aberrant, ça.
Il avait cette particularité, ce qui s'appelle en psychiatrie l'écholalie, c'est-à-dire que jusqu'à 5 ans, lorsqu'il prononçait une phrase, il se la répétait intérieurement. Il répétait sa phrase intérieurement, il avait deux fois ses phrases. Il disait deux fois les phrases. Alors après, on a beaucoup dit qu'il y avait...
Ça veut dire quoi? Qu'on réfléchit beaucoup? Il la répète avant de la dire ou il la répète après l'avoir dit?
Il était peut-être déjà en train de penser qu'on le comprenait peu. Après,
il avait lancé le podcast avant que ça existe.
Il a inventé beaucoup de choses avant que ça existe.
C'est un truc de fou. Ses recherches, justement, sont toujours d'actualité. Tout à l'heure, Didier Van Collard nous disait qu'il l'avait anticipé... que la dernière sortie sur la gravitation...
Alors ça, il faut que je vous raconte une chose. Je suis très touché que vous ayez invité Laurent aujourd'hui, parce que c'est pour moi le biographe le plus pénétrant, le plus fin sur Einstein, celui qui justement ne s'est pas arrêté aux grandes dates, aux grands événements, et qui à chaque fois a cherché le décalage humain. Et c'est vrai qu'on a Einstein en commun depuis très longtemps. Je pense que tu es le premier à qui j'ai... C'était un jour en traversant la rue à Nice où je t'ai raconté mon histoire d'Einstein qui passait au sein d'une médium à un apiculteur. Et voilà, c'est vrai que la vision d'Einstein qu'a eu Laurent a beaucoup marqué a stimulé mon intérêt pour Einstein. Et puis on a vécu ensemble, chose qui s'appelle vraiment une synchronicité, si tu me permets de la raconter.
Et en sachant que moi, mon caractère médecin, je suis assez hermétique à tout ce qui est médiumnique.
Et moi, j'ai l'esprit critique toujours en alerte, mais je ne peux pas ne pas raconter ce qui se passe. Et je venais, j'avais eu un mois plus tôt, cette médium qui avait raconté qu'Einstein disait, il y aura cette détection, je comprenais pas. Les ondes gravitationnelles, c'est quoi, ces choses? Et le matin, j'ai un autre message en disant, ça y est, ils l'ont détecté, avec le site du point. Je regarde le site du point, et en effet, on venait de l'annoncer. Et là, tout à coup, il y a ce moment de surchauffe. On dit, mais c'est fou. J'ai un mois avant les autres, j'étais au courant. J'ai besoin de redescendre sur Terre. Et là, je sors. J'étais à Paris. Je sors dans la rue et je rencontre Laurent.
Et je ne suis pas toujours derrière lui.
Par hasard.
Non, par hasard, parce qu'on est et on se voit. On se voit souvent à Nice au Privé des Anges, mais très rarement à Paris. Et là, je lui dis, écoute, voilà ce que je viens. T'as entendu la détection des ondes gravitationnelles. Et toi, je pense que t'avais pas encore entendu le poste. Et je dis, voilà ce que j'ai reçu il y a un mois. Donc, je partage avec la personne qui connaît le mieux, Einstein, de mon entourage, par hasard, ce moment-là. Et ça, c'est clin d'œil du destin. C'est pour moi plus important, parce que c'est des moments de vraie humanité, de vraie surprise, c'est plus important que la charge médiumnique.
Et Laurent, il n'y en a rien à faire.
Non, pas du tout.
Laurent,
je suis plus dans la rationalité, ouais, c'est vrai.
Et pardon, mais là, l'autre fois.
Non, mais c'est vrai, en même temps, c'est magnifique. Il y a eu un autre épisode où, en réalité, il a vraiment des dons très particuliers, je crois pas du tout, mais Didier, et c'est vrai qu'il arrive à deviner le livre que vous êtes en train d'écrire. Il y a quelque chose de médiumnique en lui, même si on peut être complètement.
Disons que chaque fois qu'on s'est rencontré dans des moments importants, notamment quand tu avais commencé le cas Edouard Einstein, et tout à coup, ce qui arrive à tous les écrivains, on se met à douter, à se dire, je peux pas entamer cette icône qu'est Einstein, et on se rencontre dans la sortie d'un parking, là encore complètement par hasard, et tu me dis ça, et là, je m'entends le dire, attends, il faut absolument l'écrire ça, mais donne la parole aux deux. C'est un livre trop important, tu vas apporter beaucoup plus à Einstein que si tu as peur de salir son image. Donc le fait, modestement, d'avoir été à ce moment-là, d'avoir participé, si tu veux, à cette... parce que je crois que tu étais à deux doigts d'abandonner. Oui, et quand on voit ce qu'a été le livre à l'arrivée...
Tu étais au bout de la route.
Là, je suis content.
ça se voit encore.
C'est exact.
Et que l'idée que Einstein se balade comme ça dans différents esprits, ça...
Je trouve ça très intéressant. Le livre est passionnant.
C'est pragmatique, mais ça
voilà, mais alors, il y a des choses... C'est très intéressant. C'est très intéressant. Il fait revivre Einstein sous une forme qui est la sienne, avec beaucoup de talent, beaucoup de verve, beaucoup d'imagination. Et puis le livre est passionnant. Donc, après, moi j'ai ce recul de la rationalité qui m'empêche de tout croire, mais même lui, je crois, a cette espèce de distance.
Est-ce que c'est vrai que ses cendres ont été éparpillées selon ses volontés?
Absolument, dans l'océan. Et chaque point de son histoire est un roman en soi. Et c'est vrai que son cerveau a été volé. C'était un homme d'exception.
Vous venez de signer.
C'est pas quelqu'un ici qui l'a récupéré. Hein.
Vous venez de signer Romain Gary s'en va en guerre, c'est votre 24 heures donc dans la vie de Romain Gary, c'est aux éditions J'ai lu, écrivain et médecin Laurent Sechnik. Merci d'être venu.
Et ce talent pour parler de la vie, moi j'ai adoré Stéphane Zweig, c'était vraiment une promenade magnifique.
Tanguy Pasturo, bonjour Tanguy.
Bonjour.
Jean-Vincent Placé a vécu une fin de semaine compliquée.
Oui, il a passé plus de 2 jours en garde à vue, il sera jugé en juillet pour violence, outrage et insulte. C'est Jean-Vincent Montana, le fils de Tony. Mercredi soir à plus de grammes, il a pété les plombs comme dans Very Bad Trip, sauf que lui était tout seul, il n'a plus d'amis puisqu'il a travaillé pour François Hollande. Et on apprenait hier qu'il était interdit d'entrer chez Castel depuis 2 ans pour des faits similaires, c'est fou.
À tout à l'heure, ça sera dans la deuxième partie, notre invité est Didier Von Kovelaert avec son dernier roman J'ai perdu Albert aux éditions Albin Michel.
Hello,
c'est nous, c'est nous. On ne changera pas.
Ah, d'accord, okay.
Nous sommes comme ça.
Ça va,
quand tu regardes comme ça, elle a envie de chanter Leïla.
Qui se bat. je suis bien placée pour en parler.
L'information revient à 13h avec Bruno Dillet.
Les femmes au pouvoir.
Et toute l'après-midi, ce sera Laetitia Gaillet au pouvoir de l'info. À tout à l'heure.
C'est gênant.
C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kaddo Boudéjé.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bonjour.
Albert.
Bonjour.
Jérémy Crédville.
Salut.
Tanguy Pasturo.
Salut.
Et notre invité Didier Van Tomeur.
Bonjour.
J'ai perdu Albert, voilà. L'histoire d'Albert Einstein qui se balade. Enfin oui, j'allais dire l'histoire d'Albert Einstein qui se balade entre l'esprit d'une femme et l'esprit d'un homme, c'est aussi l'histoire de cette femme et de cet homme, parce que il y a Albert Einstein qui joue au ping-pong entre les deux cerveaux, mais c'est leur histoire bien particulière.
Oui, puis il agit comme un trait d'union, il a besoin de la réunion de ces deux personnages qui sont tellement aux antipodes de la société, une jeune femme en plein dans les arcanes du pouvoir qui manipule ou est manipulée, mais qui essaie de rendre la pensée d'Einstein et ses objectifs posthumes aussi fidèlement que possible.
Ouais, les deux ont une vie privée un peu chancelante.
Bah oui, elle se fait manipuler par son mec, évidemment, qui utilise ses dons à son profit.
Elle n'y voit rien.
Dommage pour une médium.
Bah oui, ça c'est le problème, c'est que pour soi on a rarement des infos, et puis il y a le libre arbitre du choix, voilà, la sensualité, la féminité, les illusions qu'on peut se faire sur quelqu'un, et aussi se dire mais moi je vais le changer, il va devenir un mec bien avec moi, et ça
c'est
sont des
croyance.
Sentiments
c'est, ouais.
tout à fait respectables, mais dont on paie les pots cassés, quoi. et puis lui, lui il a été abandonné par sa femme qui a tout pris. Et en plus, il doit payer ses impôts parce qu'il est insolvable. Il est complètement ruiné. Ses abeilles meurent. Il est obligé d'être garçon de café pour
payer son loyer.
Il va être
viré.
Et puis, ces personnages, comme je les aime, qui sont des idéalistes en souffrance, complètement butés. Il va jusqu'où. Il ne changera pas. Il va dans le mur. Il le sait. Mais il ne va pas changer d'autre parce que. Voilà, il est programmé pour aller dans le mur, pour rester fidèle à lui-même. Et au début, évidemment, c'est cet homme qui croit en rien, de l'invisible et tout ça, qui connaît tout à coup, sa vie devient un cauchemar parce qu'il y a des informations sur tout et n'importe quoi tout le temps. Mais au moment où il va comprendre le mode d'emploi, il va comprendre qu'il peut, grâce aux informations d'Einstein, arriver peut-être à sauver les abeilles, à lutter contre, de manière très efficace, contre tous les facteurs qui les condamnent.
Et elle,
là,
elle
ça va tout changer.
Et elle n'est pas si malheureuse sans cet esprit qui l'obsédait aussi avant.
Ah ben elle découvre, en même temps, c'est complètement dépaysant, elle n'a plus d'infos sur personne.
Elle est fraîche.
Elle peut peut-être, enfin, avoir une vie de femme normale. C'est-à-dire quitte à se faire avoir, à se tromper...
Alors, qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme, si ce n'est message, au moins valeur dans ce roman?
Là, ce qui m'intéresse, c'est les perturbations qui agissent comme révélateurs. C'est-à-dire, tout à coup, votre vie s'arrête, un truc terrible vous tombe dessus. Et vous rendez compte que ça va vous permettre de devenir qui vous êtes vraiment, d'aller chercher vos potentiels endormis, de montrer aux autres qui vous êtes et de trouver aussi un sens à votre vie à travers la personne que vous allez rencontrer qui va devenir complémentaire. C'est ça que ces deux personnages en déroute, rassemblés par Einstein, parce que il veut, pour ses objectifs posthumes, il a besoin de cette équipe-là. Et on n'en dira pas plus sur la fin du livre, mais ce ménage à trois d'un genre assez particulier, c'est quoi ? C'est une petite leçon de vie, d'espoir, d'humanité.
Ça s'appelle « J'ai perdu Albert », c'est chez Albin Michel, signé Didier Van Cauwelaert, notre invité jusqu'à midi et demi. Tanguy Pastureau, c'est maman qui maltraite un peu. Tanguy, nous avons tous en nous une part d'ombre, donc.
Oui, Nagui, ainsi, alors que vous semblez être un monsieur équilibré, dont le grand âge a gommé les excès. On vous appelle le père Fouras d'Alexandrie. Peut-être le matin, en consultant les audiences de l'Access de la veille, la bave aux lèvres, vous hurlez « J'ai tout défoncé !» Ah, dans le fion, Carole Gessler. Peut-être Leïla, qui passe ici pour une intello, mais seulement parce que nous autres sommes tous totalement cons, se plonge-t-elle le soir dans l'album « La flûte à six schtroumpfs ». On ne connaît jamais vraiment les gens. La preuve, c'est qu'à chaque attentat, les voisins du djihad disent au JT, c'est pas possible, il était si gentil. Il portait les packs d'eau de Madame Sanchez, la vieille dame du troisième. À chaque fois, il y a quelqu'un pour dire que le meurtrier portait les packs d'eau d'une seigneur. Moi, j'ai prévenu ma grand-tante, je lui ai dit, l'eau, c'est fini. Depuis, elle carbure à la Suze. Elle passe la journée défoncée. Elle s'est fait faire un piercing au téton à 96 ans. Mais au moins, Daesh ne l'aura pas. Si ça se trouve en vrai, Mylène Farmer est super rigolote et pète dans l'eau du bain. Peut-être au contraire, Cyril Hanouna passe-t-il le week-end dans les cimetières à réfléchir au sens de la vie. Il se dit, va-t-elle à droite, va-t-elle à gauche, sans ma sœur, j'y comprends rien. Et il lance l'application Waze. Bref, on pense connaître les gens, mais non. Ils nous sont aussi inconnus que l'est le trash metal à Renaud Capuçon. Par exemple, on avait l'impression de cerner Jean-Vincent Placé, l'écolo à lunettes qui paraissait aussi fun qu'une myxomatose contractée par Chantal Goya lors d'une nuit de sexe avec Jeannot Lapin. Il a fait une petite carrière, a été sénateur, ce qui consiste à fréquenter des gens qui dorment, comme Mesmer sur TF1, sauf qu'au Sénat, il n'y a pas Karine Ferry, mais des types qui pourraient être son arrière-papy. Il a été secrétaire d'État sous Hollande. Alors, quand je dis sous Hollande, c'est au sens littéral, hein, puisqu'il s'est tellement aplati pour avoir le poste qu'il s'est presque glissé sous les semelles de l'autre. Il avait écrit « Home sweet home » sur son front et Hollande s'essuyait les pieds dessus en rentrant le soir. Alors, depuis la fin de Hollande, qui n'a d'ailleurs jamais commencé, Placé était à la cool. Il a monté un parti, l'UDE, qui compte un adhérent, lui. Hein, il est à la fois président, trésorier, et quand il se dit « je me taperai bien la secrétaire », il se met à tripoter ses propres fesses en murmurant « t'aimes ça ma cochonne ». Il avait donc une vie de solitude, à l'instar de François Bayrou ou d'Hortense Martin, l'unique fan encore en vie de Jean-Pierre Elkabbach.
Bon, tout allait bien, sauf que dans la nuit de mercredi à jeudi, tout a dérapé,
oui,
et c'est le drame.
C'est terrible. Placé se rend dans un bar de nuit de Saint-Germain-des-Prés, un quartier où du temps de Sartre, on vendait des livres et où aujourd'hui, du temps de Nabila et Thomas, on vend des petits tops à 300 boules. Là, selon les témoignages, il arrive déjà ivre, ce qui est aussi con que traîner la nuit au bois de Vincennes quand on vient de faire l'amour. Et donc, il est accompagné d'un ami sénateur, s'installe au bar et propose à Alizée, une jeune fille de 20 ans, de l'argent pour qu'elle danse pour lui. Pareil que Kamel Wally, sauf que Placé à la fin, il n'y a pas de spectacle. Donc pour lui, la vie, c'est un pipe-show permanent. Hein, il sort les billets, les nanas doivent danser. Enfin, c'est comme La La Land, sauf que lui ne dit pas « S'il vous plaît, mademoiselle, votre beauté me donne des ailes. » Mais il la traite, je cite, de « sale pute hein, ». Voilà, le type a 50 ans, mais dans sa tête, c'est Orelsan quand l'autre était encore puceau. Le videur du bar entend ça, s'approche, dit à Placé un truc comme « une réplique de videur, quoi. » Et Jean-Vincent Placé se présente, relate le Parisien, comme ministre en fonction, alors qu'il a juste été secrétaire d'État un an et deux mois du temps de Manuel Valls. Truquement polémiste à la télé. Hein, donc c'est comme si Philippe Risoli disait à son neveu « Je te laisse Kevin, j'ai toute une série de prime à préparer pour l'été sur la une et il me confie aussi le 20h ». Donc le videur insiste, il dit « Bah… » et Placé, qui est défoncé tel un marin de Saint-Malo le jour du départ de la route du Rhum, se met à lui crier « On n'est pas au Maghreb ici, je vais te renvoyer en Afrique, tu vas voir ». Là, un long silence se fait. Les gens se disent « c'est impossible, Placé est de gauche, il ne peut pas être raciste, on a du mal à entendre ». Alors tous prennent rendez-vous avec Audica pour le lendemain. La BAC arrive, avec Bernard de la Villardière qui les filme. Placé leur dit « mais enfin, je suis le président des États-Unis, laissez-moi ». Accessoirement, et c'est véridique, il les traite de connards et de tocards. Il s'en prend à la police. C'est le seul gangsta rappeur à avoir gardé comme blase Jean-Vincent. Il y avait Ice-T, lui aurait pu s'appeler, je sais pas, Cacolac, hein. Mais il est ouf, un Snoop Dogg armé à côté de Placé, c'est Kiki, le chien de ma nièce, qui dort en boule roulée dans son panier. Donc là-dessus, Placé se farcit deux jours de garde à vue. Dans sa cellule, il hurle « Vous allez le payer, quand je vais appeler Dieu, dont j'ai le 06, puisque je suis Jésus, il va pas être content ». Il sera jugé en juillet, mais hier, Closer nous apprenait qu'il était déjà interdit d'entrer chez Castel, également à Saint-Germain-des-Prés, depuis deux ans, pour des faits similaires, puisque rond comme un cul de Kardashian, il avait levé la main sur un autre client. Enfin, il fout quoi. Placé, il se bat, traite les filles de pute, balance des phrases racistes. Depuis hier, je lui cherche une qualité, j'ai laissé un trou dans le texte, mais j'ai pas trouvé. C'est le bad boy ultime. Mais si Karine Le Marchand avait vraiment envie de frissonner, c'est avec Placé qu'il fallait se coller en couple, plutôt qu'avec Joey Star qui ne fait plus peur que dans les EHPAD. Alors si à Paris, vous croisez Jean-Vincent Placé la nuit, changez de trottoir, Nagui, Saint-Germain-des-Prés, à peur.
Merci, Tony Pressions. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Didier Vaucovelard, J'ai perdu Albert. Ce roman est une nouvelle façon donc de voir l'amour, parce que vous parlez d'un trio amoureux. Parce que lui, il serait amoureux de l'un des deux, voire du couple.
Parler d'Einstein.
D'esprit, oui.
Bah, non, disons que. Imaginons. Après avoir eu la vie qu'a eu Einstein et toutes ses nombreuses histoires amoureuses et tout ce qu'il aurait voulu créer qu'il n'a pas eu le temps de faire, il se dit que ce couple-là, et avec son problème avec ses propres enfants aussi, dont il estime avoir raté l'existence. Il y a une forme de rédemption dans son regard sur ces deux êtres-là. Et...
Oui, c'est-à-dire que la rédemption, il la cherche déjà chez l'héroïne, chez Zoé.
Chez Chloé,
parce qu'il il veut la paix dans le monde et se débarrasser de cette image.
En fait, au début, elle avait utilisé des informations venant d'Einstein pour faire carrière dans la physique, mais comme pour Einstein, ses profs lui ont dit, vous comprendrez jamais rien à la physique, vous faites autre chose, parce que vos résultats sont justes, mais les calculs sont faux. Comme Einstein, qui de son vivant avait toujours l'intuition juste, le résultat était bon, et après il devait faire la démonstration, mais il était déjà parti ailleurs, ça le barbait, et il avait des fautes d'inattention dans ses calculs. Donc, Chloé exite les études, et en fait on se rend compte que l'influence aujourd'hui qu'on peut avoir, c'est en étant médium, pas en étant prof d'université. Sauf que... elle remplit pas vraiment son contrat.
Donc la mission d'Albert Einstein dans l'esprit de Chloé, c'était, j'allais dire, la paix dans le monde. Et chez lui, chez le garçon de café, c'est plutôt l'apiculture, c'est plutôt les abeilles et la planète.
Avec quelque chose que je n'ai pas inventé.
Donc en fait, chaque fois, il avait un combat différent, en tout cas, en fonction de l'esprit dans lequel il va.
Oui, mais en même temps, tout seul, Zach, avec ses abeilles et pas de pognon et rien, ne peut rien faire. Et Chloé était dans une impasse, donc en réunissant les deux, en passant de l'un à l'autre, il va peut-être pouvoir réussir à travers eux. Et c'est vrai que je n'ai pas inventé l'abeille robot. L'abeille robot qui est ce que Zach va
vous en parler,
construire
oui.
grâce à l'information d'Einstein a été fabriqué par l'Université du Danemark, par Axel Michelsen et le professeur Rémi Chauvin. Et on a assisté à quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire qu'à partir des travaux de décryptage du langage des abeilles de Carl von Frisch, à travers la danse en huit et le mouvement de leurs antennes, on a réussi à glisser ça dans un abeille robot, système style GPS, pour envoyer ce robot dans une ruche et programmer à distance pour donner des informations aux abeilles, comme le font les abeilles exploratrices, qui donnent à la fois la distance et la position du lieu à butiner. Et bien ça a marché, c'est-à-dire qu'on a envoyé les abeilles où on voulait. Le problème, c'est qu'un laboratoire pharmaceutique s'est emparé de ça et a utilisé les abeilles pour aller fabriquer un médicament base d'une plante qui poussait dans un endroit où les abeilles n'allaient jamais, qui était en haut des arbres, et ils ont réussi à cela. Et sauf que ensuite, quand les abeilles sont allées butiner ces fleurs inaccessibles et ils ont récupéré le miel pour faire ce médicament, et ben le principe actif du médicament avait disparu. Et donc ils ont estimé que c'était pas rentable, donc ils ont abandonné et ces recherches dorment. Et j'ai déjà des échos depuis que le livre est sorti d'universitaires qui me disent mais c'est trop con, il faut, si vraiment on a la preuve que ça a marché, c'est le seul moyen sans doute d'empêcher la disparition des abeilles, c'est-à-dire leur expliquer qu'il ne faut pas les butiner le matin quand les champs sont pleins de pesticides, comment tuer le frelon asiatique par exemple. Il n'y a que les abeilles
la première solution,
Japon.
Ça serait d'arrêter les pesticides.
Comme ça, pourrait y aller quand elles veulent.
Oui, mais attendez, vous avez vu la difficulté. Bon, heureusement, Polynice, qui est vraiment un anti-lobby, qui réussit en Europe à faire à chaque fois avancer les choses, interdire, obtenir des moratoires sur les pesticides. À chaque fois, les autres repassent en force. Donc, informer les abeilles, c'est-à-dire leur... et on a les moyens, on a compris leur langage.
Leur donner l'information de ne pas aller le matin.
Voilà, par exemple, les pesticides, tout le monde connaît. Le frelon asiatique, tout le monde connaît aussi. Il décime les ruches, c'est un fléau terrible. Et les abeilles françaises, les abeilles européennes, par exemple, ne savent pas comment lutter contre lui. Les abeilles au Japon, oui. Elle le tue, le frelon entre dans la ruche, en faisant un méchoui. C'est-à-dire, 50 se mettent autour de lui, et elles pratiquent la clim réversible, les abeilles. Et parmi les ouvrières, il y a un métier qui s'appelle le métier de ventileuse. Pour que la ruche soit toujours à 37 degrés, été comme hiver, il faut envoyer tantôt de l'air froid, tantôt de l'air chaud. Et là, elles se mettent à 50 sur ce frelon asiatique qu'elles ne peuvent pas tuer avec leur dard parce qu'il a une armure trop forte. Et elles le cuisent. Au bout de 20 minutes, le frelon est cuit. Mais il y a besoin, pour ça, de leur donner l'information à nos abeilles. Alors, on a fait venir des reines asiatiques, mais c'est long. L'abeille, elle est là depuis 140 millions d'années.
Les reines, on ne les reçoit pas n'importe comment.
Et bien, absolument. Les abeilles sont là depuis 140 millions d'années. Elles ont survécu aux glaciations, à tout, mais c'est lent, l'information. Il faut qu'elle s'adapte à tous ces facteurs. Et depuis moins de 100 ans, elles sont chopées plus de catastrophes qu'en 140 millions d'années. Mmh. Les pesticides, les OGM, les ondes électromagnétiques, l'acarien, le varroa, qui n'existait que dans l'île de Java. Les soviétiques ont importé des rennes de Java pour améliorer leur production. Et cet acarien s'est échappé et a suivi la route du Transsibérien pour venir chez nous. Donc, il faut informer les abeilles sur l'île de Java. Elles savaient comment se débarrasser de cet acarien. Et donc voilà, ça, tout ça paraît complètement fou, mais c'est complètement rationnel et scientifique. Et on a les moyens d'empêcher ça, sans doute. Donc pourquoi s'en priver ? J'espère que ce roman aura aussi ce
petit rôle. Pour être un détonateur.
J'espère.
Agir comme une bombe. Mmh. Ça s'appelle « J'ai perdu Albert » chez Albin Michel. On l'a pas perdu. Et bien là, c'est Daniel Morin.
Quand t'as la lose, t'as la lose. Mais quand t'as la win, tu l'as vraiment la win. J'en veux pour preuve la réussite tous azimuts, magistrale et polymorphe de Michel Simès. Michel Simès, le rebouteux préféré des Français.
Relativisé.
Le 17 mars dernier, il a réuni 5,8 millions de téléspectateurs sur France 3 avec Meurtre en pays d'Oléron. Il a failli taper The Voice sur TF1.
Il les a tapés en rediff avec le replay une semaine après.
Qu'est-ce que je vous disais ? Et en ce moment, alors que la presse écrite s'effondre, un journal axé sur la santé cartonne. Dr Good, un magazine supervisé par Michel Simès. Mais quel est le secret de Michel Simès ? Revenons sur ce parcours incroyable. Michel Simès est né le 14 mai 1957 à Paris. Un beau bébé joufflu qui a l'air un peu idiot et particulièrement rieur et déjà très blagueur. On dit que c'est à l'occasion de sa première tétée avec sa nourrice qu'il aurait inventé la fameuse blague « 10 camions ». Alors oui, le parcours de Michel Simès est semblable à celui d'une comète. Michel Simès est un brillant médecin, mais son côté midinette le rend fragile. Il est attiré par le showbiz de façon incontrôlable. Un été à la grande mode pour arriver à rentrer en boîte VIP, il aurait même couché avec Anne Romanoff. Médecin de renom, il excelle. Il excelle dans la spécialité d'ORL. Les stars du showbiz se pressent dans son cabinet pour se refaire faire la cloison nasale après des années de consommation de cocaïne. Des stars qui n'hésitent pas à le financer quand il a besoin d'argent pour lancer avec un collègue proctologue les célèbres soirées coloscopie et art de vivre. C'est au cours d'une de ces soirées justement que Michel Simès fait la connaissance de Nagui, star incontournable du music hall. Michel Simès est de plus en plus attiré par les paillettes et des paillettes. Le Nagui, il en a. Sur sa veste de smoking, sur ses pompes, sur son slip et les soirs de gala, sur sa langue. Alors forcément, ça match entre les deux compères. Amusé par Nagui, Michel Simès n'en est pas moins lassé par cette manie que l'animateur a tout le temps de demander à ses amis de finir ses phrases en leur demandant de bloquer ou non les paroles. Du coup, Michel se lance seul dans le métier. Il se lance prétextant à porter un peu de savoir médical auprès d'Anne Carrère-Dancos, une femme bien qui, aujourd'hui, vit sous antidépresseurs et sursaute chaque fois que son collègue fait une blague de cul, puis la regarde en disant « Bah quoi ?» Et après, c'est l'escalade. Michel Simès rencontre un jour Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions. Il partage avec elle une coupe de champagne, quelques rondelles de saucisson, puis lui raconte la blague de la mouche qui pète. Delphine Ernotte est morte de rire et lui confie une émission santé, bien-être, découverte aux côtés d'Adriana Carambeux, les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Et tout ça cartonne. Et pendant ce temps-là, son soi-disant copain, Nagui, regarde tout ça d'un air, on peut le dire, faussement amusé. Jusqu'au jour où, dans un classement quasi scientifique, Michel Simès est classé animateur préféré des Français devant son ex-ami Nagui qui ne supporte pas la nouvelle et qui, pour soulager sa rage, émascule son rédacteur en chef de France Inter, un certain J.B. Bussière. À la radio, c'est pareil et ça, Nagui ne lui pardonnera jamais. Il a fait ses armes sur France Inter aux côtés de l'animateur franco-égypto-fasciste. Puis, une fois l'outil maîtrisé, il part sur RTL sauver la matinale moribonde et par la même occasion engranger des dizaines de milliers d'euros quotidiennement. Non, c'en est trop pour Nagui qui, pour la première fois, commandite l'assassinat du docteur surdoué. Aujourd'hui, alors que sortir un magazine papier correspond à se tirer une balle dans le rectum, Michel Simès accompagne Dr Good qui explose les ventes. Et puisqu'on parle d'explosion, attention docteur, j'ai entendu Nagui au téléphone demander un numéro en Serbie et donner moult détails sur le modèle de votre voiture, votre immatriculation et même l'endroit où vous vous garez le vendredi soir au Bois de Boulogne. Méfiance docteur, à demain.
Merci.
Daniel Morin. avec Nagui.
Rendons à Marina son prénom.
Oui.
Oh, Marina
Carrère d'Ancos.
Et on embrasse évidemment Michel Simès.
Qui n'est plus l'animateur préféré des Français depuis que le sondage a enfin bien compté les voix.
Tu veux dire depuis que t'as bourré les urnes?
Je t'en prie. On parlerait de vos week-ends un autre jour.
Didier Van Cauwelaert signe J'ai perdu Albert, le roman chez Albin Michel, qui est déjà un film, puisque vous avez parlé tout à l'heure de la musique de Michel Legrand. Le film sortira le 12 septembre.
Oui, j'ai
déjà
réalisé
filmé.
Le film cet été. Et donc avec...
Stéphane Plaza, Julie Ferrier, Josiane Balasco.
Ouais.
Dans les rôles
et Bernard
principaux.
Lecoq, Virginie Visconti, c'est un super casting. Et
personne pour le rôle d'Albert, c'est où c'est une voix off?
Non, parce que non, il y a jamais de voix off justement parce que c'est très différent du livre. Il y a vraiment un langage cinématographique qui est d'une autre structure que celle du roman. Mais on voit Einstein en 1933 sur le fameux paquebot qui l'emmène aux États-Unis où il a cette histoire avec cette femme de chambre. Et c'est Étienne Drabert qui joue le rôle d'Einstein, qui est un incroyable sosie, un très grand comédien.
Film que vous réalisez donc. Et qui sort le 12 septembre, J'ai perdu Albert.
Et d'après vos prévisions et après vos visions, il a marché le film ou pas?
Je vous enverrai les.
C'est plus mal
les
passé.
Chiffres prédits par les médias.
C'est plus mal passé. Il y a l'autre, il y a le résultat du loto dans le livre. Des excuses à présenter.
Oh là, oui, bien sûr. Désolé déjà pour Nagui. J'ai eu un flash médiumnique pendant l'émission et j'ai appris que ta carrière allait prendre un sale tournant. À moins que présenter la météo sur Europe 1 et refaire le duo Black M and Romanov dans ta Tata, te fasse kiffer, donc tant pis. Désolé pour Leïla, j'ai eu un autre flash médiumnique pendant l'émission et j'ai appris que ta carrière allait prendre un sale tournant. À moins que continuer à bosser avec Nagui te fasse kiffer, évidemment. Alors là, continue, sois heureuse. Et désolé pour Didier Van Cauwelaert, j'ai eu un flash médiumnique pendant... Oui, j'ai pas arrêté. Et j'ai appris que votre dealer, après vous avoir écouté ce matin, a décidé de ne plus vous vendre de cette drogue qu'apparemment vous prenez en grande quantité. Fini les livres avec des apiculteurs pénétrés par Einstein. Retour à la vie réelle. Courage Didier.
Merci Didier.
Ah oui, merci.
Merci beaucoup. Merci. Didier Van Cauwelaert, J'ai perdu Albert. Demain, c'est Jean-François Stévenin qui sera notre invité. Tout de suite, des carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonjour.
Ouais, salut Nagui, salut tout le monde.
Qu'est-ce que c'est ça?
Je sors du cabinet de Michel Simès.
Ah, tu t'es refait les cloisons?
Il est inimitable, Michel Simès. Eh, les amis, j'ai une citation avant de vous quitter. Vas-y. D'Albert Einstein. Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la
bêtise humaine.
Vous la connaissez?
Mais
Nagui, on est victime.
Et il est plus facile de casser un atome qu'un préjugé.
C'est joli, Einstein. C'est joli.
Et de beaux cheveux, c'est d'abord une belle
chapeau.
Nature.
Joli.
Jean-Louis David.